Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Nul ne sera tenu en esclavage ou servitude. C'est l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un article qui sert de socle à toutes ces plaintes en justice pour esclavage moderne. Qu'il s'agisse de travailleurs non déclarés, d'employés de maisons captifs ou de prostituées exploitées. Dans le sud de l'Italie, par exemple, des milliers de travailleurs agricoles s'échinent à récolter fraises, pommes de terre, tomates, dans des conditions souvent exécrables. Journée de 12 à 14 heures de travail pour des salaires qui varient de 250 à 600 euros par mois. Les contrats de travail sont inexistants ou mensongers. Ces ouvriers, pour la plupart étrangers, sont venus bien souvent avec leurs enfants qui n'ont pas de statut légal. Des enfants qui travaillent sans être payés, Cécile Debarge.
C'est souvent un entrefilé qui se glisse entre les gros titres des journaux au fil des récoltes et des saisons. Dans la province de Caserte, les syndicats parlent de mineurs qui travaillent dans les champs. Dans celle de Foggia, c'est un contrôle de l'inspection du travail qui fait émerger la présence d'un adolescent bulgare parmi les travailleurs agricoles. En Sicile, dans les serres, les associations parlent de jeunes parfois âgés de 13 ans à peine qui accompagnent leurs parents pour travailler. Combien sont-ils au total, ces enfants et adolescents qui travaillent dans des conditions souvent qualifiées d'esclavage moderne en Italie? La réponse est difficile. Lorsque les parents, travailleurs agricoles, viennent travailler en Italie, bon nombre d'entre eux ne sont pas en règle. D'autres, issus de pays de l'Union européenne, n'ont pas besoin de visa et font des allers-retours librement d'un pays à l'autre sans que leurs enfants n'apparaissent nulle part. Pas d'école, pas de soins et souvent le travail comme seule activité. Mais le secteur agricole ne serait pas le seul touché par l'exploitation de mineurs. L'Inspection nationale du travail a publié un rapport inquiétant à un an du début de la pandémie de Covid-19. Même si le travail des enfants est interdit depuis 1967, 340 000 mineurs travailleraient en Italie et 28 000 d'entre eux seraient particulièrement vulnérables et à grand risque d'exploitation, c'est-à-dire près de 11% des adolescents entre 14 et 15 ans qui travaillent. Jamais ils n'ont été aussi nombreux. Secteurs les plus touchés, la restauration, le commerce, l'artisanat et le secteur agricole. Les enfants les plus à risque sont ceux qui travaillent de nuit ou jusque tard le soir. Ce sont souvent ceux qui abandonnent l'école. Pour parvenir à ces informations, l'inspection du travail italienne s'est basée sur les amendes infligées lors de contrôles. Aussi élevées que sont ces chiffres, il pourrait bien n'être que la partie émergée de l'iceberg.
Elles n'apparaissent dans aucune statistique, travaillent le plus souvent sans assurance maladie, bien en dessous du salaire minimum. Et sans elles, le système de soins aux personnes âgées dépendantes serait appelé à s'effondrer. En Allemagne, des centaines de milliers de femmes venues de pays d'Europe de l'Est prennent soin à domicile d'une population vieillissante, pour beaucoup dans l'illégalité et victimes d'une véritable exploitation. Depuis Berlin, c'est le reportage de notre correspondant Julien Méchaussi.
Les dernières années, ce monsieur ne pouvait plus se lever. Il était incapable d'aller aux toilettes tout seul. Il avait besoin d'une prise en charge 24 heures sur 24. Sa garde malade n'avait que 2 heures de pause par jour entre 13 heures et 15 heures, uniquement en semaine quand un des enfants venait s'occuper un peu du père. C'était le seul moment où la garde malade avait le droit de quitter la maison. Mais elle devait utiliser cette pause, qui n'en était pas une, pour aller faire les courses. Tout ça pour 900 euros par mois.
Monika Fiacek est juriste au sein du BEMA, Centre berlinois de conseil pour la migration et les bonnes conditions de travail. Depuis 11 ans, elle accompagne en langue polonaise et russe des femmes garde malades. Le cas évoqué par Monika Fiacek est celui d'une Polonaise de 70 ans qui a pris soin pendant 10 ans d'un monsieur dépendant. Ramené au taux horaire, son salaire ne dépassait pas les 2 euros de l'heure. Au mois de mars de l'année dernière, elle était rentrée quelques jours chez elle, en Pologne. Mais avec la pandémie et les frontières fermées, elle n'a pas pu reprendre son travail. La famille de la personne âgée l'a alors renvoyée. Et grâce à l'aide du BEMA, elle a porté plainte. Une procédure juridique longue et difficile s'annonce. La grande majorité de ces gardes malades ont en effet le statut de travailleur détaché. Si celui permet à un citoyen d'un État membre de travailler dans un autre pays de l'Union européenne, l'assurance maladie et les droits sociaux restent ceux du pays d'origine.
À cause de ces formats typiques d'emploi, à cause de ce statut de travailleur détaché et de travailleur indépendant fictif, il est extrêmement compliqué de faire valoir ses droits. Et il n'y a personne pour contrôler ce système. Sans parler du fait que ces femmes, malgré des conditions de travail très dures, ont peur de perdre leur travail. Elles en ont besoin pour survivre. Au contraire de la France, nous n'avons pas en Allemagne d'inspection du travail. Ces femmes sont tout simplement laissées à leur propre sort.
Un système que les chercheurs allemands n'hésitent pas à qualifier d'exploitation ou même d'esclavage moderne, à l'image de Vincent Horn, auteur de plusieurs études sur la dépendance et professeur à l'université de Mayence.
Tout le monde sait que ces femmes sont ici. Le ministre de la Santé le sait, les chercheurs le savent, les gens le savent, parce qu'ils ont une voisine, un voisin pris en charge par une soignante polonaise ou ukrainienne. C'est un secret de polichinelle. Ce phénomène, c'est non seulement une réalité, mais en plus, il est toléré par des responsables politiques incapables de mettre un terme à ces abus.
En Allemagne, seuls 20% des personnes dépendantes sont prises en charge dans des établissements spécialisés, un taux très faible comparé à ses voisins qui s'explique par la mauvaise réputation des lieux d'accueil, mais aussi par l'idéal d'une prise en charge à domicile avec des soignants qui vivent sous le même toit. Un idéal réalisé aux dépens de ces femmes venues de l'Est.
Les familles sont gagnantes parce qu'elles peuvent ainsi garder leurs proches à la maison et surtout parce qu'elles peuvent financer cette prise en charge. Il faut bien garder à l'esprit que les coûts pour des soins 24 heures sur 24 à domicile vont de 10 000 à 12 000 euros par mois. Qui peut se permettre de dépenser une telle somme? Mais il n'y a pas que les familles qui y trouvent leur compte, l'État allemand aussi. Avec ce système, il s'évite des réformes coûteuses et impopulaires.
Un système dont profitent aussi les entrepreneurs polonais avec le statut de travailleur détaché. Les cotisations sociales, certes minimes, sont versées dans le pays d'origine. Des centaines d'agences de recrutement se sont ainsi spécialisées dans ce secteur, comme l'explique Monika Fiacic.
Ces gardes-malades ne viennent pas d'elles-mêmes en Allemagne. Elles ne choisissent ni leur lieu ni leurs conditions de travail. Elles sont amenées ici par des agences spécialisées. Des agences qui ont des bureaux de recrutement partout en Pologne, dans les régions rurales pauvres, avec des offres qui comprennent le transport jusqu'ici, le lieu de travail, toute une organisation qui serait inaccessible pour ces femmes.
Les agences visent des femmes au chômage, surendettées ou avec des petites retraites, proposent des salaires bien supérieurs à ceux de leur pays d'origine et restent vagues sur les conditions de travail. Des femmes qui par ailleurs n'ont pas de véritable formation de garde-malade, avec de graves conséquences, souligne Vincent Horn, pour les familles et les travailleuses.
Par exemple, des cas d'étouffement sont connus, des personnes qui sont mortes dans leur vomi ou à cause d'erreurs commises lors des repas. Et ces femmes doivent ensuite vivre avec ces expériences traumatisantes lorsqu'elles rentrent dans leur pays d'origine. Là, elles ne bénéficient d'aucun accompagnement médical ni psychologique. L'Allemagne s'en lave les mains et au final est bien contente de ne pas avoir à s'occuper de toutes ces problématiques.
L'Allemagne compte aujourd'hui 3 millions de personnes dépendantes. D'ici 2030, elles seront 4, voire 5 millions selon les projections. Et encore aujourd'hui, aucune réforme n'est prévue pour mettre fin à ce système d'exploitation des gardes-malades de l'Europe de l'Est.
Toutes ces femmes dans la rue.
Elles sont des milliers en Espagne, originaires d'Amérique latine et exploitées dans des réseaux de prostitution. Pour la première fois, l'une d'elles a réussi à obtenir de la justice la reconnaissance d'un lien de travail qui la lie à ses employeurs. Non seulement ils devront lui payer des indemnités de licenciement, mais ils pourraient aussi être contraints à lui verser tous les arriérés de sécurité sociale. À Madrid, Diane Cambon nous explique en quoi l'histoire de cette femme colombienne qui a porté plainte est un exemple.
Evelyn Rochelle est arrivée en Espagne à l'âge de 22 ans pour soutenir financièrement sa famille restée en Colombie. À 45 ans, après avoir travaillé pendant toutes ces années comme prostituée, elle est devenue une figure de la lutte pour les droits des femmes exploitées par les proxénètes. Son procès contre Elle Flowers, l'une des plus grandes maisons closes de la région de Madrid, a duré 4 ans. Il a commencé lorsqu'Evelyn Rochelle a été expulsée sans sommation de la petite chambre au-dessus du bar à hôtesse. C'est là qu'elle logeait et qu'elle faisait monter les clients. Ses employeurs pensaient ne rien lui devoir grâce au flou juridique qui entoure la prostitution en Espagne. Le code pénal punit de peine de prison, le proxénétisme et la prostitution est interdite sur la voie publique, mais une personne a le droit de se prostituer volontairement. Il n'y avait bien sûr aucun contrat de travail entre l'employeur et son employé, et les propriétaires du bar l'ont congédié sans indemnité. Les juges du tribunal suprême, la plus haute instance juridique du pays, en ont décidé autrement. À l'issue du verdict, Evelyne Rochelle s'est dite satisfaite d'avoir prouvé l'existence d'esclaves de fait à l'intérieur de l'Union européenne. Selon l'ONG Anesvad, 8 femmes sur 10 qui exercent la prostitution en Espagne ne disposeraient pas de papiers en règle et seraient victimes de la traite. Près de la moitié des femmes viennent d'Amérique latine, un tiers des pays de l'Est et un faible pourcentage d'Afrique. La permissivité de la loi espagnole a permis au réseau de la prostitution de s'étendre à travers le pays. L'Espagne serait, selon plusieurs études, la 3e destination au monde du tourisme sexuel, derrière la Thaïlande et Puerto Rico.
Et les esclaves modernes sont parfois cachés dans les méandres de la sous-traitance. C'est le cas des ouvriers du textile qui en Asie fabriquent à bas prix les vêtements des grandes enseignes européennes. Notre correspondant dans la région a beaucoup enquêté sur le marché. Sébastien Farsi, le Bangladesh est le 2e producteur de vêtements au monde, surtout des vêtements bon marché, produits en masse, bref, ce qui alimente ce qu'on appelle la fast fashion.
Oui, le Bangladesh, c'est environ 4 millions de travailleurs du textile qui opèrent dans des énormes entrepôts et fabriquent des t-shirts, des pantalons ou des chemises de moyenne qualité pour des marques comme H&M, Zara ou Lidl, le tout bien sûr à des prix très bas, quelques euros pièce. Le pays s'est spécialisé depuis 40 ans dans cette production de masse et se différencie par exemple de l'Inde voisine qui fournit des produits plus haut de gamme avec de la broderie faite à la main par exemple. Au Bangladesh, environ 5000 usines sont éparpillées sur ce petit territoire pour des exportations d'une valeur de 22 milliards d'euros l'année dernière à destination des pays riches. Les deux tiers des vêtements partent en Europe et le reste surtout vers les Amériques.
Mais ces vêtements bon marché, Sébastien, se paient parfois au prix de la sécurité et des conditions d'emploi de ces travailleurs.
La paye est en effet faible, entre 80 et 100 euros par mois pour 10 à 12 heures de travail et la grande majorité des ouvriers sont des femmes. Se syndiquer est très compliqué, voire impossible dans beaucoup d'usines et il y a encore quelques années, les incendies et les accidents étaient très fréquents. Le plus grave d'entre eux, beaucoup s'en souviendront, fut celui du Rana Plaza. C'était il y a 8 ans et plus de 1100 ouvriers ont alors péri dans l'effondrement d'un immeuble qui accueillait des usines de textile près de Dhaka, la capitale. Ce bâtiment n'était pas construit aux normes et de lourdes machines et générateurs avaient été installés sans autorisation.
Ce drame a eu toutefois une conséquence positive. Il a forcé les marques à accepter la mise en place d'un organisme indépendant de contrôle.
Oui, il s'appelle l'Accord pour la sûreté des bâtiments et contre les incendies, ou Accord tout simplement, et il est né en 2013, juste après l'accident du Rana Plaza, et il représente un modèle dans le domaine. Car par ce système, une équipe indépendante d'experts, dirigée par un spécialiste étranger basé au Bangladesh, inspecte les bâtiments, recommande les modifications pour garantir la sécurité des installations, et les usines locales ainsi que les marques signataires sont obligées légalement de réaliser les améliorations recommandées. Faute de quoi, eh bien, ces marques n'auront plus le droit de travailler avec ces usines et si un accident arrive, eh bien, elles peuvent être tenues pour responsables, ces marques. C'est un mécanisme unique qui rend les entreprises occidentales responsables de la sécurité des travailleurs délocalisés dans un pays pauvre. Et cela a très bien fonctionné car depuis 8 ans qu'il est mis en place, eh bien, aucun accident grave n'est survenu dans une usine de textile au Bangladesh.
Mais ce système de contrôle n'était que temporaire.
Exactement. Et il sera remplacé, ce système, par un organisme 100% bangladais appelé RSC pour Conseil durable du prêt-à-porter. Les marques, propriétaires d'usines et syndicats seront là aussi représentés de manière égalitaire. Mais il y a une grande différence avec ce nouveau système. Les fabricants ne seront en effet plus sanctionnés légalement si les réparations recommandées ne sont pas réalisées. En gros, ce nouveau conseil a une valeur plus incitative que réglementaire. Et cela inquiète les syndicats. J'ai appelé la représentante de l'un d'entre eux, China Rahman. Elle est cadre dans l'organisation Industrial Hall au Bangladesh et elle devrait faire partie des 6 représentants syndicaux du nouveau conseil. On l'écoute.
We are
Nous ne sommes vraiment pas contents de cette nouvelle formule. C'est bien sûr très différent d'avant. Nous serons 6, assis face à 6 représentants des marques et 6 de l'organisation patronale, BGMEA. Mais ça sera difficile d'avoir gain de cause, car l'association patronale est très puissante et dangereuse. Elle a la faveur du gouvernement, son ancien directeur est maintenant député.
Selon un rapport de l'association Clean Cloth Campaign, environ 90% des réparations demandées aux usines qui travaillent pour les grandes marques ont déjà été réalisées ces dernières années sous la pression de l'accord. Mais ce qui reste demeure crucial, car des centaines de bâtiments n'ont toujours pas d'alarme à incendie, par exemple. Du reste, si les inspections ne sont pas renouvelées avec la même discipline, eh bien les gains de ces dernières années pourraient être perdus et de nouveaux accidents pourraient survenir.
Merci Sébastien Farcy à New Delhi.
Music. Musique.
Et pour notre chronique musique, on embarque aux Pays-Bas avec vous, Vincent Théval, bonjour.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous nous faites découvrir une mélodie pop aux accents un peu rétro, signée Don Melody Club.
Et parmi les disques de confinement qui nous arrivent régulièrement depuis quelques mois, en voici un particulièrement sympathique. Il s'agit de l'échappée en solo du claviériste et chanteur du groupe hollandais Moscovitch Dance Band. Alors que les activités de son groupe étaient suspendues pour cause de pandémie, Donald Majid s'est mis au travail en solitaire, simplement équipé d'une vieille boîte à rythme des années 60 et de quelques synthétiseurs, pour écrire des chansons inspirées par la culture pop néerlandaise et l'argot des bars Amstelodamois. 9 de ses chansons sont aujourd'hui réunies sur l'album Pure Donzin que le chanteur publie sous l'alias Don Melody Club.
Sloegen de morgen, 6 uur. Je hebt een ochtendhumeur. Het eerste glas wordt geschonken, het is puur. En je lust voor het leven verdwijnt. Je wilt terug in de tijd. Kijk me lachend aan en vraag, wat wil je ontbijt?
C'est sur cette musique de Don Melody Club que se termine Accent d'Europe, réalisé par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur le site de RFI ou sur les plateformes à la rubrique podcast Accent d'Europe. À très bientôt.
Sounds like the